Et du coup, moi, c'est Romain, je suis en master de sociologie. Et ma question, je ne sais pas si ça sera plus abordé dans l'après-midi, mais est-ce que vous voyez un lien entre cette obligation à rester, entre guillemets, neutre politiquement et le fait que la conception dominante du pouvoir d'agir est celle du est celle social-libérale ?
On prend plusieurs questions. Ça peut être des questions, ça peut être aussi des interventions, des contributions à la discussion. Hein, ce n'est pas forcément le format question.
Oui, bonjour. Moi, je travaille dans un centre social dans l'Indre, à Châteauroux. Et c'est vrai que par rapport à vos conclusions, je ne me retrouve pas du tout. Je suis référente famille dans un centre social. Je ne me retrouve pas du tout dans le fait de ne pas prendre en compte les ressources et les compétences des classes populaires, pas du tout. Voilà, j'ai notamment participé avec un groupe de femmes à la création d'une épicerie sociale. Et donc, voilà, je trouve que c'est une épicerie qui est créée par des femmes qui ont eu des situations d'insécurité alimentaire pour des personnes qui sont en insécurité alimentaire. Et j'ai pas du tout l'impression de pas avoir pris en compte leur expérience, leur expertise. Voilà. Et j'ai l'impression qu'au quotidien, mon travail, c'est de perdre le pouvoir pour le laisser aux gens.
Nathalie, tu étais dans la posture du pouvoir d'agir, transformation sociale, sans aucune ambiguïté. Ça a été dit, il y a différentes postures et l'expérience que tu mènes et l'entretien qu'on a fait, voilà, la diversité a été présentée, c'est très clair que...
Alors, effectivement, pour compléter, alors je suis Laure Sugier, je suis aussi la chercheuse qui est intervenue dans l'Indre avec Anne. Donc, pour compléter les propos de Anne, justement, et surtout ceux de Nathalie, et comme vous l'avez dit au début, c'est les limites de l'exercice, c'est-à-dire c'est un exercice de synthèse qui, malheureusement, présente les limites de gommer les spécificités locales. Et Nathalie, je voulais juste te prévenir que demain, je comptais justement m'appuyer sur l'expérience d'envol et que je ne prends pas comme prétexte ton intervention d'aujourd'hui.
Il y a quelqu'un ?
Pardon.
Vous avez évoqué la transformation du métier de travailleur social. Et j'ai lu un article récemment sur en fait l'expérience des grands voisins. Donc c'est des expériences assez nouvelles d'occupation temporaire de lieux qui sont abandonnés pour en faire à la fois des lieux où en tout cas ça coûte rien, donc qui rapportent un peu d'argent et qui permet comme ça de développer une vie locale, une vie d'animation. Et ils ont fait eux-mêmes une synthèse et un retour sur ces expériences. Et ce qui pointait, c'était la modification justement de ce qu'est le travail social par ces expériences-là. Alors voilà, est-ce que vous en savez plus sur ces questions ? Est-ce qu'on peut les relier à ce travail ou c'est autre chose ? Voilà, comment faire le lien entre le travail social dans les centres sociaux et peut-être des nouveaux acteurs, puisque nous, moi je parle aussi en mon nom puisque je viens de la culture, qui ne sont pas des travailleurs sociaux et qui coopèrent avec des travailleurs sociaux et des centres sociaux. Et ensemble, peut-être, on transforme aussi les pratiques des uns et des autres. Quoi.
Moi, j'ai une interrogation par rapport à la restitution sur les différentes conceptions. Là, on a beaucoup entendu du coup des questionnements auprès des salariés des centres sociaux. Est-ce qu'on a éventuellement des questionnements auprès des membres des conseils d'administration, habitants, voilà, un petit peu plus de précision sur la méthode d'enquête. Voilà, parce que là, on a le point de vue de ce que j'ai compris des salariés. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir un petit peu un retour sur les questionnements en direction des élus, membres des conseils d'administration ou des instances de pilotage ?
Moi, juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on a précisé qu'à l'étape où on en est du travail de mise en commun des différentes enquêtes et de discussions collectives, pour le moment, on en est là. On a aussi du matériau sur des membres de conseils d'administration ou des bénévoles qu'on n'a pas encore eu le temps de traiter. Moi, de ce que j'ai pu entendre dans certains centres sociaux en discutant ou en faisant des entretiens avec des membres de conseils d'administration, alors là aussi avec une très grande variabilité en fonction des contextes, des parcours des personnes, des trajectoires, en tout cas, dans mon cas, c'est quand même, c'est pas très éloigné. On va dire, c'est pas très éloigné d'une méfiance à la fois, enfin, soit parce que c'est perçu comme une injonction, mais pas dans le sens. Enfin voilà, c'est le nouveau terme à la mode qu'il faut utiliser. Et c'est pas très utile. Et puis aussi un malaise ou une difficulté à s'approprier ou à s'emparer du terme, parce que la question du portage politique du projet du centre social par les membres du conseil d'administration n'est pas complètement non plus florissante. Et voilà, tout ça pour dire que dans la suite, il y aura aussi des choses qui prendront en compte d'autres acteurs des centres sociaux que les salariés.
Oui, alors on va...
C'est pour enregistrer.
Non, c'est
parce qu'il faut qu'on enregistre.
J'ai la voix qui porte, je pense qu'on doit m'entendre. Je voudrais que vous répondiez à la première question que ce monsieur a posée, parce que c'est aussi... entre libéral et social, deux mots qui me semblent antinomiques.
Justement, on a prévu de répondre. L'idée, c'était de prendre plusieurs questions. Sur ces différents modèles, en fait, c'est des modèles qui ont été définis. C'est qu'on est passé un peu vite par Marlène Baquet et Carole Buvenor, qui ont travaillé sur la notion d'empowerment. Et elles montrent en fait, qu'on peut s'inscrire dans... elles définissent trois modèles, en gros, qui est un modèle qui est plutôt purement libéral. Je ne me souviens plus si c'est le terme qu'elles utilisent de libéral, mais qui est en gros, l'empowerment, c'est comment ? Néolibéral. L'empowerment, c'est se prendre en main, c'est un peu le self-made man, quoi. Donc, on ne remet pas du tout en cause comment fonctionne la société, mais c'est, chacun prend en main son destin. Donc, quelque chose qu'on peut utiliser, parce que l'empowerment, on le retrouve dans les manuels des écoles de commerce aussi. Donc, il y a ce modèle-là. À l'opposé, il y aurait le modèle qu'elles appellent radical, je crois, c'est ça, radical, qui est un modèle qui est beaucoup plus axé sur le fait de transformer la société radicalement, transformer les rapports de pouvoir à leur sein. Donc là, on rejoint l'idée de la question de Nora aussi, qu'est-ce qu'on met derrière transformation sociale ? Donc là, c'est vraiment l'idée de transformer les rapports sociaux, les rapports de pouvoir, dénoncer le capitalisme, enfin, un modèle radical. Et puis, entre les deux, il y a ce social-libéral, donc c'est le terme qu'elles utilisent, en fait. C'est pour ça qu'on a repris ce terme, qui est pour dire, c'est un peu une position intermédiaire, on va redonner des capacités, enfin, on va, comment dire, développer la cohésion sociale. Donc, il n'y a pas seulement la dimension individuelle, il y a un peu la dimension aussi de groupe. On va faire en sorte, il y a quand même la dimension mondiale qui est présente, faire en sorte que chacun puisse développer ses capacités. On a une dimension collective, mais par contre, on ne remet pas en cause la société telle qu'elle fonctionne. C'est cette idée un peu intermédiaire.
Juste pour compléter, ouais. L'image qu'elle donne, c'est sur ces trois modèles, il y a un modèle où on ne touche pas aux règles du jeu néolibéral, où chacun doit se débrouiller, être l'entrepreneur de sa propre vie et traverser la rue. Le modèle social-libéral, on admet que les règles du jeu ne sont pas très justes. Donc on va essayer de faire en sorte que les gens ils aient un peu plus d'outils pour survivre dans un jeu dont les règles ne sont pas très justes. Et on va aménager un peu le terrain de jeu pour que ce soit moins inconfortable d'y jouer. Ça, c'est le modèle social libéral. Et puis le modèle radical, c'est on change les règles du jeu. Donc voilà, c'est pour caractériser de manière un peu imagée. Il y a des règles du jeu et on joue selon les règles en fabriquant des individus adaptés aux règles du jeu. Les règles du jeu ne sont pas excellentes, on les aménage un petit peu, puis on s'arrange pour que les gens ne survivent pas trop mal. Et puis dans le troisième modèle radical, on décide que les règles du jeu, elles ne sont pas justes et qu'on a besoin de les changer.
Et donc effectivement, pour répondre à la question de savoir s'il y a un lien entre le fait de s'inscrire principalement dans ce modèle intermédiaire là qu'a bien résumé Catherine et le fait de se déclarer apolitique ou d'avoir des réticences sur la dimension plus politique du pouvoir d'agir, y a un lien qui est évident. Ça, on reviendra dessus demain en fait sur les questions de politisation, en montrant que la plupart des salariés en fait considèrent pas leur rôle comme étant un rôle de politisation des individus et des collectifs, alors que dans la notion de pouvoir d'agir, on pourrait avoir cette idée, notamment dans ce modèle plus radical du pouvoir d'agir. Donc il y a un lien qui est évident dans quelle visée est-ce qu'on s'inscrit et puis quel est notre rapport à la politique. Et il y a juste un autre aussi, parce qu'il y a eu des questions et des réponses qui ont été données, mais juste par rapport peut-être à l'intervention sur le fait qu'il n'y a pas seulement les centres sociaux dans les quartiers, mais il y a aussi d'autres expériences et qu'on peut travailler avec d'autres travailleurs sociaux. Ça, c'est une dimension qui est importante, je pense, à prendre en compte. Là, c'est vrai qu'on s'est beaucoup axé dans la recherche et dans la présentation, en particulier sur les salariés des centres sociaux et en particulier les animateurs aussi dans les centres sociaux. Mais il faut voir que cette notion de pouvoir d'agir, elle n'est pas seulement travaillée par le réseau des centres sociaux, mais elle est aussi travaillée par un ensemble d'autres acteurs qui agissent dans les quartiers populaires. D'ailleurs, à partir des années 2000, quand vraiment ça commence à être porté, on va dire, par les réseaux professionnels et militants en France, il y a la Fédération nationale des centres sociaux qui s'en empare, mais il y a aussi d'autres réseaux, par exemple les réseaux des régies de quartier, d'autres réseaux du travail social, et qui se regroupent en 2000 dans un collectif qui s'appelait le collectif Pouvoir d'agir. Et donc, c'est vrai que c'est important d'avoir ça en tête, le fait que c'est porté par d'autres acteurs et que les acteurs des centres sociaux rencontrent sur le territoire. Et d'ailleurs, c'est pareil, c'est des entretiens qu'on n'a pas encore complètement analysés, mais on a pu mener des entretiens avec d'autres acteurs qui portaient ces questions, notamment, je pense, aux coopératives d'éducation populaire que vous pouvez rencontrer sur certains territoires. Donc, je pense que c'est important d'avoir ça en tête, que voilà, il y a les centres sociaux, mais le centre social n'agit pas seul non plus, et il y a aussi d'autres travailleurs sociaux qui s'emparent de ces questions.
Oui, merci. Moi, je voulais répondre à la question là, de qui participait aussi au projet des centres sociaux. Parce qu'en fait, la question de projet fédéral dans le réseau des centres sociaux, c'est tout neuf. C'est en 2010, quand on a démarré sur la démarche congrès au niveau national, qu'on s'est dit qu'il fallait que on passe d'un espèce de projet permanent historique à un projet plus ancré dans les enjeux du moment de la société. Et le premier projet politique du réseau des centres sociaux, il arrive en 2014, après le congrès de 2013. C'est important de dire ça, parce que du coup, effectivement, on voit bien qu'il y a beaucoup à progresser sur comment on construit notre projet ensemble, etc. Néanmoins, on a vu quand même ce que ça a pu changer dans la montée en politisation du réseau entre 2013 et 2020. Par rapport à d'autres moments. Donc j'ai envie de dire, il y a là quelque chose quand même qui est en train de bouger autour de la question de la construction du projet. Puis pour votre fédé, aussi toute jeune, quand vous serez 50 à pouvoir faire de l'animation de réseau, d'être présent dans les centres sociaux, d'accompagner les équipes en permanence, etc. Je plaisante quand je dis 50, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'être 50, mais en tout cas, on voit bien que la montée en puissance aussi de la Fédé et de sa capacité du coup à faire vivre cette dimension-là est un élément qui est hyper important dans la capacité aussi de faire vivre cette dimension de la politisation, du projet, de donner du sens. Par rapport à ça, moi j'aimerais juste dire, il y a un petit truc qui m'embête dans ce que j'entends, je ne peux pas remettre en cause bien évidemment, hein, mais moi j'entends presque un peu dans la présentation, où c'est comme je le comprends, un peu une opposition entre la dimension cohésion sociale, lien social, émancipation, le modèle, pour reprendre ce que disaient Marie-Hélène Baquet et puis Carole Vienner, le modèle social-libéral, là, tel qu'on vient d'en parler, effectivement, si on parle de développement du pouvoir d'agir, on est plutôt dans ce modèle-là. Mais si on parle du projet politique des centres sociaux, c'est quand même plutôt bien d'être à la fois sur ce modèle-là et d'aller explorer et de vouloir avancer sur l'autre dimension qui est celle de la transformation sociale. Là, on fait le travail de recherche s'est fait sur comment aujourd'hui le réseau des centres sociaux Centre-Val de Loire s'empare de cette dimension-là du DPA. Et aujourd'hui, il est plutôt sur cette dimension cohésion, lien, émancipation des individus, etc. Et c'est très bien. Et c'est ça notre histoire. Et c'est un élément qui est important. C'est aussi bien... Enfin, à partir du moment où on apporte un peu plus de douceur dans la vie des gens, c'est pas mal. Mais effectivement, il nous semble que politiquement, aller explorer l'autre dimension autour de la transformation sociale, c'est-à-dire d'agir sur des règles, tenter d'agir sur des règles du jeu, qu'elles soient locales ou nationales, pour que, effectivement, la question des inégalités, la question de la justice sociale se pose un peu autrement, est un autre enjeu dans lequel on est à peine en train de démarrer et avec un certain nombre de véritables leviers qu'on possède, parce qu'en termes de proximité des habitants, en termes de capacité d'écoute et d'aller vers, j'entends tout ce qui est dit, et en même temps, dans le paysage national français, il me semble qu'on a là des véritables atouts ancrés dans notre projet, dans notre histoire, quand même depuis un moment. Et puis, après, toutes ces difficultés sur lesquelles il va falloir aussi tenter d'agir. Mais moi, je suis quand même convaincu que dans une société fractionnée, on n'a pas beaucoup parlé du contexte là ce matin, mais société fractionnée, on parle d'une société en transition, il y a bien sûr la dimension écologique, il y a énormément de choses aujourd'hui qui vont... Une société qui bouge vite et avec des choses qui s'accélèrent dans des évolutions sociétales, que la question du sens et de quelle société on a envie de construire ou à quelle société on a envie de contribuer, qu'elle soit d'un côté plus douce et que d'un autre côté il y ait moins d'inégalités et que les règles du jeu soient différentes. Et là, je pense qu'on a une vraie dimension politique dans laquelle dont on peut s'emparer sur lien social, cohésion. Bien évidemment, ça va bien, mais aussi, c'est quoi les règles du jeu aujourd'hui qui font que certains vivent mieux que d'autres dans notre pays. Et s'engager dans cette dimension-là et partager du sens autour de cette dimension-là, me semble-t-il, en dehors de la question du travail social ou de l'animation sociale ou de l'animation, enfin de toutes ces dimensions-là, en termes de projet politique et de portage politique, là, on a aussi des enjeux énormes dans le réseau pour tenter de contribuer à une société plus juste et une société plus solidaire. Et voilà. Mais je trouvais, enfin moi, j'entends la restitution aussi un petit peu comme s'il y avait une opposition, alors qu'en fait il y a un et plutôt qu'un ou. Il me semble à construire dans comment on pourrait contribuer à la société.
Pour rebondir un petit peu là-dessus, bon, je pense qu'on aura aussi l'occasion de poursuivre cette discussion d'un matin. Quand on va discuter des enjeux de politisation et d'engagement tels qu'elles ont pu être observées et analysées, une des questions qu'on se pose justement et qui ressort de la recherche Engagir, c'est à la fois la question que justement c'est pas aussi évident que ça qu'il y a une causalité, qu'il y a un lien direct entre travailler à l'émancipation individuelle et à la cohésion sociale et passer à l'action collective et à la transformation sociale. Je veux dire, c'est pas... Le lien entre les deux n'est pas mécanique, n'est pas simple, n'est pas direct. Il y a plein de cas et plein de gens qui s'arrêtent à la première étape. Et quand je dis qu'ils s'arrêtent, ce n'est pas une critique, c'est simplement un constat sur c'est des choix aussi que les gens peuvent assumer pleinement que leur rôle, c'est ça. Et après, je pense que ce qu'on avait repéré aussi, c'est parfois une vision assez, je ne sais plus comment la qualifier, mais évolutionniste. Mais on y reviendra demain aussi, qui est dire qu'en fait, on ne peut pas passer à l'étape de l'action collective et de la transformation sociale si on n'a pas déjà avant des gens qui sont des individus émancipés, etc. Ou si on a des gens qui ont trop de problèmes matériels, on ne va pas pouvoir faire de la transformation sociale. Donc je pense que ça renvoie aussi cette question-là à un ensemble de représentations qui ont tendance à penser qu'il faut procéder par étapes. Et ça renvoie aussi à la conception qu'on a des compétences des habitants. Si on considère qu'ils partent de très 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 loin, et on va avoir besoin de beaucoup, 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 beaucoup de temps avant d'imaginer qu'un jour, peut-être, ils pourront s'engager dans l'action collective, ou si on part du principe qu'ils ont des compétences et des capacités qui peuvent être mobilisées tout de suite. Mais ça, on y reviendra demain. Mais je pense que c'est intéressant de s'interroger justement sur des, à la fois sur des conceptions qui sont comme ça évolutionnistes un peu, et puis sur le fait que je suis pas sûre moi du tout. Et que ce qui est intéressant, c'est de se demander à quelles conditions il y a un lien entre la volonté d'émanciper les individus et de refabriquer de la cohésion sociale et celle de l'action collective. Et je ne suis pas sûre que ce soit aussi direct et simple.
Alors, en fait, moi, c'est une question plus par rapport à la notion d'engagement, un peu, dans ce qui a été dit. C'était faire du pouvoir d'agir, c'est aussi avoir une posture de travail engagé. Et en fait, moi, quand j'entends ça, j'entends derrière un peu militantisme, un peu combat, affrontement, etc. Et du coup, je me demandais, est-ce que on est tout le temps obligé d'être là-dedans? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer même une transformation sociale sans cette idée de combat, d'affrontement? Mais dans les choses évoluent, on peut aussi communiquer, même si on est en désaccord sur certaines idées, que ce soit de manière plus politique ou non, avec municipalité ou autre, en se disant que si chacun défend ses propres intérêts, d'arriver à trouver un consensus qui soit sans forme de conflit ou d'affrontement. Alors peut-être ça paraît un peu c'est tout beau. Mais en même temps, je me demande si derrière, on pense pas toujours les choses en termes de conflit, alors qu'on pourrait les penser différemment. Enfin, je sais pas.
Moi, c'était une question sur plus la manière dont vous avez conduit la recherche. Déjà, je trouve que c'est intéressant d'avoir regardé cette question de la manière dont les salariés se sont emparés de cette question-là. Je ne suis pas sûr, dans le réseau, à ce jour, qu'on ait fait ce travail. Donc, je trouve que c'est éclairant et que ça donne plein de pistes pour approfondir et aller plus loin. La question que je me posais, c'est on a regardé les pratiques des salariés, notamment au regard de leur parcours, de leur trajectoire. Mais est-ce que vous avez mis ça en corrélation en regardant aussi ce qu'il y a aujourd'hui dans les projets des centres sociaux? Parce que ce que font les salariés est aussi intimement lié à la manière dont le projet a été construit avec l'équipe d'administrateurs, et c'était notamment ça, je pense aussi que relevait Ramatou tout à l'heure, c'est pas des salariés tout seuls. Et est-ce que aujourd'hui dans les projets des centres sociaux vous voyez apparaître et ces notions de pouvoir d'agir et une approche qui pourrait être autour de celle de la transformation sociale et dont on se dirait ah mais peut-être que dans la pratique il y a un écart parce qu'aujourd'hui la mise en pratique est plutôt pour l'instant sur le volet émancipation individuelle, ou est-ce que ça n'apparaît pas encore parce qu'on est aussi sur quelque chose qui se construit dans notre propre réseau autour d'une approche politique peut-être plus affirmée sur cet enjeu de transformation sociale.
Oui, moi je voulais juste revenir sur ce débat conflit cohésion sociale pour dire que le problème de la cohésion sociale, de ce mot cohésion sociale, c'est qu'en fait aujourd'hui il désigne le paradigme dominant des politiques publiques. Il est à toutes les sauces, etc. Ce qui fait que dans le système institutionnel dans lequel on est, on ne peut pas dire qu'on refuse de faire de la cohésion sociale. C'est pas possible. Voilà. Mais ça, c'est le mot. Après, si on rentre dans la mécanique du paradigme de la cohésion sociale, il n'est pas du tout certain que ce soit un paradigme qui soit le plus qui assure le plus d'amortisseurs compassionnels aux difficultés, à la violence de la société. C'est pas sûr du tout. Si vraiment on rentre dans voilà. Donc j'aurais envie de dire, bon, puis on en reviendra demain parce qu'on va en reparler, mais j'aurais envie de dire attention, séparons la question de la cohésion sociale comme en fait posture obligée à partir du moment où on s'inscrit dans un système institutionnel, et la critique de la cohésion sociale comme paradigme sociopolitique. Et comme paradigme sociopolitique, il y aurait beaucoup à en dire. Notamment que, en réalité, le paradigme de la cohésion sociale, c'est le même que celui de l'État-providence actif, des politiques d'activation. Et les politiques d'activation sont intrinsèquement violentes. Elles mettent les individus, les victimes, en position d'assumer la responsabilité de leurs difficultés. Donc intrinsèquement, le paradigme de la cohésion sociale, il applique une violence à la société. Voilà, c'est la raison pour laquelle je voulais dire que peut-être il faudrait différencier les choses pour s'autoriser des nuances qui peuvent nous faire avancer.
Peut-être juste réagir sur la question de l'engagement. On aura l'occasion d'y revenir demain. Il peut y avoir effectivement différentes conceptions déjà de l'engagement. Qu'est-ce qu'on met derrière, hein, chacun, comme pour la notion de pouvoir d'agir, on pourrait se demander ce que chacun met derrière l'engagement. On peut y voir des convictions, le sens qu'on va donner à son action. Et dans ce sens-là, il n'y a pas forcément de lien entre l'engagement et le conflit. Ceci dit, nous, et on reviendra dessus demain, il nous semble que la question de la prise en compte des conflits, elle est centrale, en fait, dans le pouvoir d'agir et dans les formes d'engagement et de politisation, parce que, tout simplement, les conflits... on reviendra demain sur comment est-ce qu'on entend le politique, en fait. On peut l'entendre d'une manière très large, le politique, et comme étant la prise en compte, la gestion de tous les conflits qui traversent la société. Et à partir de là, c'est difficile, en fait, de mettre à l'écart complètement les conflits en disant, moi, je vais faire mon travail sans prendre en compte les conflits existants, alors que justement, la question du politique, c'est prendre en compte et se positionner par rapport à des conflits qui sont structurants dans une société, sachant que ce n'est pas forcément quelque chose qui est négatif en soi, mais c'est quelque chose qui est structurant, en fait, dans la vie sociale. Et donc, et d'ailleurs, ce qu'on présentera demain, c'est ce qu'on a pu observer, c'est un évitement du politique dans les centres sociaux, parce qu'il y a justement un évitement du conflit. Donc c'est vraiment, je pense, une question qui est assez centrale, à mon avis, cette question du conflit, elle est centrale, mais je pense qu'on aura l'occasion demain de travailler davantage dessus. Il faudrait que le micro...
En fait, ma question, c'était, est-ce qu'il y a forcément combat quand il y a conflit? Est-ce qu'il faut forcément le mot combat derrière? Et vous dites aussi, posture de travail, quand vous parlez du pouvoir d'agir, engagé tout de suite, alors que ça pourrait être posture, une des postures de travail dans le pouvoir d'agir. Enfin, vous voyez, il y a cette notion tout de suite d'engager qui est juste...
Oui, parce que il y a des postures professionnelles qui peuvent être conçues comme aussi un engagement politique. Donc c'est la question, c'est pas forcément le cas, hein. On peut aussi avoir un engagement professionnel, c'est pour ça que la notion d'engagement elle est très large, hein. On peut se considérer engagé dans son travail sans effectivement se sentir engagé dans un combat politique, mais il peut y avoir, et c'est ce qu'on l'a montré aussi, la porosité entre les deux notions, c'est-à-dire qu'on peut s'en sentir comme professionnel, à la fois engagé professionnellement, et que cet engagement professionnel c'est un engagement politique. C'est pas forcément toujours le cas, mais ça peut l'être, et c'est souvent... Voilà, quand on est professionnel dans le travail social, c'est une question qui se pose souvent, même si on peut avoir différents positionnements par rapport à ça. Et juste... comment ? Ouais, sur les projets, tu veux répondre ?
Non, vas-y. Tu peux ? Non, je t'en prie.
Non, moi, je ne sais pas trop si on... Je peux y répondre sans généraliser, mais dans les projets, au départ, en fait, bien évidemment, on a regardé ce qu'il y avait dans les projets et on n'a pas eu ce sentiment d'avoir d'écart. C'est-à-dire qu'en fait, dans les projets, le terme était présent, ou alors, en tout cas, les anciens vocables plutôt de participation. En même temps, il y avait un premier étonnement, c'est qu'à la fois, c'est présent dans les projets et en même temps, quand on est arrivé dans les structures, il n'y avait pas véritablement de pratique ou d'activité labellisée en tant que telle. Et voilà, donc il y avait plutôt, on a quand même plutôt constaté que cette terminologie, ce vocable était présent dans les projets, dans les écrits, y compris dans les manières de valoriser ensuite, dans les articles, dans la presse, les actions qui ont été menées. Et en même temps, on a été étonnés, on a observé ce qu'on a présenté, c'est-à-dire une diversité, des conceptions très diversifiées, des représentations très diversifiées sur le pouvoir d'agir. et en même temps une conception ultra-dominante qui renvoie à cette dimension individuelle du pouvoir d'agir. Donc, alors il faudra affiner ce que je viens de dire, mais effectivement on a commencé par aller voir dans les projets.
Peut-être compléter sur depuis deux ans, ce que ça peut. Alors, je n'ai pas envie d'entamer sur cet après-midi, mais sur la question des projets de centre. C'est vrai qu'on a, dans le réseau des adhérents, on n'a pas vu encore de projets politiques qui portaient clairement la visée de transformation sociale. Par contre, sur les questions de participation, bien évidemment. Par contre, on sent que ça bouge, parce qu'aujourd'hui, on a des structures en renouvellement de projets et des structures qui ont contribué, ou pas forcément, mais principalement des structures qui ont contribué au projet, mais on y reviendra cet après-midi, l'inscrivent aujourd'hui dans le projet social. Donc ça veut dire que si ça a été emparé par l'ensemble des équipes, salariés, bénévoles, et que ces questions, elles ont quand même été échangées en équipe, quoi. Voilà, après, on a très, très peu de recul sur la recherche, mais c'est aussi à mettre en analyse pour dans un, deux, trois ans, quoi, sur les renouvellements des projets.
Oui, je crois qu'il faut juste préciser que ça a été évoqué plusieurs fois, la limite, là, c'est de généraliser. Donc, ce qui gomme des diversités, et l'autre limite, c'est qu'en fait ce qu'on restitue, c'est ce qu'on a observé ou analysé, mais ça, c'est déjà daté, finalement les choses se poursuivent là, donc les choses bougent, changent.
Bon, on va évidemment oui, mais il faut deux questions. D'accord, bon, bah écoute.
Ok, merci. Patrice. Alors, moi je suis Germaine, je suis sociologue, je viens de la Côte d'Ivoire. Alors, par rapport à l'étude qui a été menée, et j'ai vu que vous avez fait un pont sur le genre, sur les femmes, et vous avez montré que c'est un espace social où les femmes expriment un peu ce qu'elles veulent. Et je voulais savoir, en dehors des femmes, est-ce qu'il n'y a pas d'autres catégories sociales telles que les jeunes, peut-être les immigrés ou d'autres acteurs, peut-être même les moins diplômés? Est-ce que ce n'est pas aussi un cadre pour eux d'échanger? Voilà.
Il y avait une question devant, là, je crois.
Encore une question.
Merci. Je ne vais pas rouvrir un autre débat, mais ce matin, dans tout ce qui a été dit, la question de l'accès au droit, d'aider à la reconnaissance de droit, n'a pas été prononcée. Simplement pour voir si ça n'apparaît pas du tout, alors qu'elle est centrale dans une partie des références qui ont été évoquées concernant le community organizing et les références mobilisées. Voilà, c'était juste une question, mais je ne vais pas ouvrir un autre débat.
Réaction. Sur la question du genre, on y reviendra peut-être plus explicitement demain, puisqu'il y a une table ronde qui reviendra sur ces questions-là. Mais l'exemple qui a été donné, c'est effectivement un entre-soi plutôt féminin, parce qu'il nous semblait que cette forme d'entre-soi est valorisée, ou disons acceptée, plus facilement accepté que d'autres formes d'entre-soi qui sont assez plus facilement vues comme problématiques, en fait. Et par ailleurs, après, ce qui se passe plutôt dans les activités observées, c'est qu'il y a une grande mixité ou diversité des publics. Donc c'est compliqué de... mais bien sûr il y a des choses faites avec des jeunes, etc. Donc, on reviendra peut-être plus précisément demain, mais il y a peut-être, effectivement, c'est pas un hasard si c'est cette activité là avec un entre-soi féminin qui a été présentée.
Sur la question sur l'accès au droit, c'est vrai qu'on n'a pas travaillé explicitement dans le cadre d'Engagir, mais c'est une dimension qui fait partie de l'action des centres sociaux de manière large, avec là aussi une double dimension peut-être, mais qui serait intéressante à explorer par la suite. C'est que la question de l'accès au droit, elle peut être vue là aussi par des propositions ou des injonctions partenariales sur l'accès aux droits à la CAF, à Pôle emploi, voilà, donc des formes de partenariat avec des institutions publiques dans lesquelles voilà, la question du partenariat est parfois compliquée, l'équilibre partenarial. Donc il y a cette question de l'accès aux droits, au sens, il y a des droits qui existent et comment on permet aux personnes qui viennent au centre social de bénéficier des droits qui existent. Et donc on collabore avec des partenaires institutionnels qui fournissent ces droits. Et il y a l'autre dimension qui est effectivement la question des injustices, par exemple, qui peuvent être vécues par des personnes et qui peuvent revendiquer le droit à, en dehors ou en plus, revendiquer la création de nouveaux droits ou l'accès de nouvelles personnes à des droits qui existent. Et ça qui est peut-être une autre dimension un peu différente et parallèle de celle de l'accès à des droits qui existent déjà. Ce qui n'est déjà pas une mince affaire parce qu'on sait bien que l'accès aux droits existants n'est déjà pas simple, mais qui est peut-être un petit peu différent dans sa modalité de prise en charge et de mise en œuvre dans les centres sociaux par rapport à la question de l'action collective visant à créer des nouveaux droits ou à permettre l'accès à des droits à des personnes qui en sont actuellement exclues. Mais c'est vrai que c'est pas une formulation autour des droits qu'on a pour le moment observé de manière très prégnante dans la manière de parler des centres sociaux. C'est pas une notion qui revient de manière insistante.
Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous.